Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce Rétrovision, nous aurons Totally Raid, Super Stereo Land, Tiny Toon Adventures, Excellent Burning Face et un dossier très complet sur la 3DO. Bienvenue sur Rétrovision. Totally Raid, sorti en 1990 sur NES, est un jeu d'action-aventure très typé Mega Man, développé par Alcom et distribué par Jaleco. Ce jeu, hormis le fait qu'il est une véritable imitation dans le gameplay et le level design de Mega Man, est aussi intéressant pour montrer du doigt les différences entre les mêmes jeux sortis au Japon et dans le reste du monde. Jake, ou John dans la version japonaise, est embauché comme apprenti magicien par Zebedia Pong, nommé Pong dans la version japonaise. Sa petite amie Allison, ou Yu, va être attaquée et kidnappée par des créatures étranges. Jake va donc se mettre à la recherche d'Allison et de savoir pourquoi ils s'en sont pris à elle. Il va découvrir en fait que sa petite amie a été kidnappée pour forcer son père à aider un scientifique déchu et refaire surface. Il va devoir sauver tout ce petit monde, mais aussi empêcher un roi maudit venu des fins fonds de la Terre à devenir le maître du monde. Les versions japonaises et nord-américaines du jeu sont quasiment les mêmes, sauf pour les personnages. Dans le jeu original japonais, les personnages principaux sont deux amis pré-adolescents. Dans le reste du monde, ils sont redessinés en deux adolescents californiens qui parlent constamment en utilisant le jargon surfeur des années 80. Graphiquement parlant, le jeu est joli, néanmoins les graphismes sont en deçà de son modèle. Les musiques par contre collent parfaitement à l'action. Le jeu est relativement difficile mais reste abordable. Celui-ci pourtant est passé inaperçu, mais méritait d'être cité. Attention les yeux, voici un jeu très peu connu qui est sorti dans les années 95-96 sur la fin de vie de l'Atari ST, enfin commercialement parlant car la machine a perduré bien au-delà. Bref, nous voici devant Stereo Land, une copie de Super Mario Land de la Game Boy, relookée pour le coup en un petit personnage coiffé à la brosse qui doit parcourir un monde merveilleux. Ce jeu qui ressemble à une copie a été pourtant bien distribué en Europe. Sur le jeu, il n'a rien à dire, si ce n'est de mauvaise musique, désactivable fort heureusement, un contrôle assez peu précis du fait du joystick car il faut lever le stick vers le haut pour sauter, ce qui rend le jeu parfaitement injouable et difficile. Le bouton quant à lui est réservé pour tirer. Comme l'original, il est impossible de revenir en arrière. Les champignons sont remplacés ici par des fioles de chimie, et la plume pour voler est remplacée par une carotte. Élément emprunté à Super Mario Land 2 d'ailleurs. Le level design ressemble en tout point à Super Mario Land, juste le design des ennemis diffère. Le jeu est beaucoup plus linéaire que l'original. Il y a eu déjà dans le passé des copies de Super Mario Bros sur micro-ordinateur, telles que Super Boy ou même Great Gina Sisters. Pour finir, Top Beat Software a mélangé différents éléments des jeux de la saga Super Mario. Malheureusement, celui-ci est vraiment très loin d'arriver à la cheville de son modèle. Alors que les élèves de la Looney Versity étaient en pleine séance de nettoyage dans un débarras, Buster mit la patte sur ce qui semblait être une vieille carte au trésor. Montana Max, flairant toujours la bonne affaire, volera la carte et kidnappera les amis de Buster. Avec l'aide du professeur Jane Splicer, il manipulera certains d'entre eux pour en faire ses esclaves. Il ne reste donc plus qu'à Buster de partir seul à la recherche du précieux trésor, mais surtout pour délivrer par la même occasion ses amis. Konami nous livre ici un jeu de plateforme dans la plus pure tradition du genre, lorgnant allègrement du côté des deux frères ennemis, à savoir Mario et Sonic. Le soft nous propose de traverser différentes régions aussi diverses que variées. Il y a par exemple des forêts, des grottes volcaniques, la mer, etc. Le tout en se déplaçant librement sur une carte, vous permettant ainsi de refaire les niveaux à loisir. Chaque région se terminant par l'inévitable boss. Dans un premier temps, il s'agira de libérer vos amis manipulés mentalement par Jane Splicer avant de vous attaquer directement à Montana Max. Dire que le jeu reprend toutes les ficelles du jeu de plateforme est un doux euphémisme. C'est un des reproches que l'on pourrait faire à Konami. Assez peu d'originalité ou d'inventivité dans ce titre qui reste sage dans la mise en scène. Les différents niveaux restent assez sobres, vous éliminerez les ennemis en leur sautant sur le crâne et pouvez sprinter à la manière de Sonic. Mais faites bien attention aux obstacles qui vous feront trébucher. Les stages regorgent de passages secrets pour accéder à des bonus ou des warp zones, voire même à des niveaux alternatifs à la manière d'un Super Mario World. Si les premiers niveaux seront assez simples à parcourir, la difficulté montera crescendo et les derniers stages se montreront assez retors. De quoi assurer une durée de vie on ne peut plus correcte pour les plus motivés. Tiny Toons Adventure est un excellent jeu qui n'est certes pas parfait, mais ne souffre pas de défauts majeurs. Le seul que l'on pourrait pointer est cet horrible effet de trame dans les niveaux aquatiques. En dehors de ça, les graphismes sont agréables, malgré des couleurs parfois un peu ternes, la maniabilité est très réactive et les musiques dans le plus pur style Looney Tunes se fondent très bien dans l'ambiance générale du titre. Malgré son manque d'originalité, Buster's Hidden Treasure reste sans contexte l'un des meilleurs jeux de plateforme de la Mega Drive, tout à fait à l'image de l'excellence du Konami des années 90, qui n'avait plus rien à prouver dans ce domaine, chose qui a malheureusement bien changé depuis, diront les plus nostalgiques de cette époque. Azuka 120% Burning Face est un jeu de baston assez peu connu en Occident, développé par le studio Phil in Cafe et édité la plupart du temps par Family Soft. Bien qu'ayant connu de multiples versions sur diverses machines, il s'agit en réalité du même jeu, soit adapté d'un support à un autre, soit mis à jour par rapport à une version précédente. Le jeu prend place dans la prestigieuse école Ryoran, un établissement réservé aux filles de bonne famille. Chaque fin d'année, un tournoi est organisé entre les représentantes de différents clubs afin de décrocher le meilleur budget pour l'année suivante. Bon, dit comme ça, le scénario semble quelque peu ridicule, mais il est difficile de trouver une histoire autre qu'un tournoi pour justifier que tous les personnages se mettent joyeusement sur la tronche. Comme vous l'aurez compris, Burning Face est un versus fighting proposant un casting uniquement féminin. 6 combattantes sont à votre disposition. Azuka, la chimiste, Kumi, la gymnaste, Tamaki, la joueuse de tennis, Ryuko, la volleyeuse, Megumi, la pom-pom girl, et Torami, la karatéka. Il faudra attendre la déclinaison PC Engine pour voir le cast s'étoffer de 4 personnages supplémentaires. Le jeu propose une jouabilité extrêmement simpliste. 2 boutons de coups et une palette de coups spéciaux à base de quarts de cercle avant ou arrière commune à toutes les protagonistes. Cela décevra sûrement les techniciens, mais offre l'avantage de mettre chaque joueur sur un pied d'égalité en réduisant à néant le temps d'adaptation au mouvement de chaque fille. Il ne faut pas pour autant penser que le soft ne propose aucune technicité, car celui-ci inaugurera un système repris ensuite par d'autres franchises, à savoir que 2 coups portés en même temps s'annuleront. C'est donc le joueur qui saura enchaîner les attaques le plus rapidement possible qui pourra prendre le dessus. Autre nouveauté du jeu par rapport à ses concurrents, Cette version excellente propose un mode histoire où votre personnage pourra librement se balader dans l'école et discuter avec différents personnages avant de prendre part à des combats pour gagner de l'argent. Ce mode se présente à la manière des jeux d'aventure typiques des micro-japonais du début des années 90, où toute action doit être choisie dans un menu. Petite astuce en passant, pour ne pas tourner en rond, choisissez toujours la dernière option après l'avoir validée 3 fois, vous passerez directement à un combat. Le mode histoire sous cette forme sera abandonné dans les versions suivantes pour revenir à un mode plus classique où les combats s'intercaleront entre les phases de dialogue simples. Seule l'adaptation de cet opus sur PlayStation reprendra ce système, mais ça nous vous en reparlerons ultérieurement. La réalisation du jeu en décevra plus d'un, mais il ne faut pas oublier que le FM Towns est une machine lancée en 1989 et la Marty n'est pas réellement plus puissante que sa déclinaison PC, malgré son architecture 32 bits. Les sprites bien que gros apparaissent pixelisés et l'on sent une nette différence de qualité entre les musiques MIDI des menus et les musiques CD entendues pendant les combats. Néanmoins, et malgré son faible nombre de combattantes, le jeu garde quand même les qualités qui ont fait sa réputation, à savoir des combats rapides et nerveux accompagnés de musiques dynamiques, d'une jouabilité simple et d'une maniabilité réactive. Azuka 120% Burning Fest Excellent est un jeu qui n'est clairement pas adapté aux fans de combos élaborés ou de technicité absolue, mais peut-être un mets de choix pour ceux qui recherchent un jeu de combat rapide à apprivoiser pour s'amuser le temps d'une soirée entre potes. Si vous n'êtes tout de même pas à la recherche d'exotisme, privilégiez tout de même la version PC Engine ou la version Limited sur Saturn, voire la version finale sur PlayStation.
Have you experienced the awesome power of the Panasonic Real 3DO system?
Obviously.
The intense realism of Panasonic Real 3DO.
Apparently.
Or the mind-blowing graphics of Panasonic Real 3DO.
Definitely.
Cool.
The Real 3DO system from Panasonic.
En l'an de grâce 1991, William M. Hawkins III, plus connu sous le nom de Trip Hawkins, quitte Electronic Arts dont il était le cofondateur pour créer la société The 3DO Company, 3DO étant l'acronyme de Three Dimensional Objects. Le premier projet de la jeune firme sera d'élaborer une architecture 32 bits gérant la 3D tout en étant axée multimédia, très en vogue à l'époque. Mais au lieu d'en faire une console, Trip préférera en faire un standard à l'instar du MSX pour en vendre la licence à différents constructeurs, récupérant ainsi les royautés sur la vente des machines, mais également des jeux. Dave Needle et Robert G. Michael, tous deux ayant fait partie des équipes de développement de l'Amiga et de la Lynx, se chargeront de concevoir l'architecture 3DO Interactive Multiplayer. Avec son système de redevance bien plus avantageux que celui de Nintendo ou Sega, la 3DO Company réussira à séduire ses concurrents comme AT&T, Creative, Goldstar, Matsushita, Samsung, Sanyo et Toshiba. Le premier constructeur à dégainer sa machine sera Matsushita en avril 1993, via la marque Panasonic avec la 3DO FZ1, console qui sera commercialisée dans le monde entier. Elle sera suivie par le modèle FZ10, plus compact, mais réservé au marché nippon. Dans le même temps, les hôtels de l'archipel se verront dotés de la 3DO Robo, une version spéciale de la 3DO FZ1 équipée d'un chargeur 5 disques. Sanyo se contentera d'un seul modèle, le IMP21J, tout simplement nommé 3DO Try. Du côté sud-coréen, Goldstar distribuera la FC1, surnommée Alive, au pays du matin calme. Ce modèle sera également vendu en Occident avant de laisser sa place à la Alive 2, commercialisée uniquement dans son pays d'origine. Le modèle le plus original viendra de chez Creative Labs avec la 3DO Blaster, une carte PC au format ISA permettant de faire fonctionner les jeux 3DO sur PC équipés de Windows 3.1. Ça ne nous rajeunit pas. Chez les autres constructeurs, les modèles 3DO resteront malheureusement à l'état de prototype. Ainsi, nous citerons le modèle de chez AT&T, le célèbre opérateur télécom nord-américain ayant présenté un modèle forcément équipé d'un modem pour le jeu multijoueur en ligne. Quant à Samsung, sa 3DO devait intégrer de série le module de compression MPEG, module vendu séparément chez les autres fabricants. Le constructeur Toshiba avait une vision radicalement différente de ses concurrents, puisque l'architecture 3DO aurait dû être utilisée pour équiper un système de navigation portable pour automobiles. Côté jeu, la 3DO aura su, durant sa carrière, se constituer d'une ludothèque d'environ 200 titres, dans des styles très divers et de qualité également très variable. La machine peut s'enorgueillir de titres tels que Alone in the Dark, Bust a Move, Doom, Dragon Slayer, Flashback, Myst, Samurai Showdown et Street Fighter 2 Turbo. Mais celle-ci aura également vu l'émergence de certaines séries comme Jex ou The Need for Speed. En dehors des jeux et des démos, la 3DO servira aussi de support pour des CD-ROM interactifs, mais également pour des softs interdits aux mineurs. Néanmoins, tout ceci ne suffira pas à garantir à la 3DO le succès qu'elle mérite, son principal défaut étant son prix de lancement de 700$, environ 538€. Un tarif prohibitif justifié par le fait que les constructeurs majoraient le prix de vente de la machine pour compenser les redevances versées à The 3DO Company. L'arrivée peu de temps après des machines un peu plus puissantes et bien meilleur marché que sont la Saturn et la PlayStation n'arrangeront pas le cas de la 3DO. Cela aura un impact fort sur le chiffre de vente des différents modèles et, par réaction en chaîne, sur le nombre de jeux vendus. Ce qui ne fera pas les affaires de The 3DO Company et son système de redevances qui ne suffiront pas à maintenir la santé financière de l'entreprise. C'est à ce moment précis que Trip Hawkins vendra ses parts dans la société à Matsushita Electronic. La firme récupérera par la même occasion le dernier projet en date de la 3DO, l'extension M2, qui devait booster les capacités de la machine et la faire repasser devant ses jeunes concurrentes dans la course à la puissance. Laissant tomber l'idée de modules additionnels au profit d'une véritable nouvelle console, toujours fabriquée sous l'étendard Panasonic, la M2 sera finalement commercialisée sous forme de station multimédia pour entreprise sous le nom de code FZ35S. Après la vente de sa branche hardware à Matsushita, The 3DO Company se recentra uniquement sur le développement de jeux pour de nombreuses plateformes. Sa franchise la plus connue restant sans contexte la série des Army Men. La 3DO restera donc une fois de plus l'exemple concret qu'une très bonne machine peut avoir son succès réduit à peau de chagrin par de mauvais choix marketing et économiques.